Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Got gun. Hulk left slot.
Dixie left. He left.
Mercedes. Wide chip. Ricky.
Bieber left. 75. Katie. Omaha.
We're going.
Last play of the game. Who's going to win it? Luck rolling out to the right. Ducks it up to Donnie Avery. Yeah!
Hello, hello, bonjour et bienvenue à tous dans l'épisode numéro 488 du podcast Touchdown Actu. Alors Mathieu, très heureux de vous retrouver pour cette ultime, je veux dire ultime mais non, parce qu'en fait il y aura le débrief de Lucas qui va être en podcast après, enfin il y a plein de trucs, ça ne s'arrête jamais. Donc non, pour un énième épisode de l'année 2022, on va parler évidemment du Super Bowl, on va débriefer tout ce qui s'est passé dans le match entre les Rams et les Bengals, victoire évidemment des Rams, nouveau champion NFL en titre. Très heureux de vous retrouver, je l'ai dit, avec une équipe complète autour de moi. On n'a jamais été autant autour du micro cette année. Raphaël Masmejean à ma gauche, bonjour Raphaël.
Salut à tous.
Victor Rouli en face de moi, bonjour.
Bonjour Alain, bonjour à tous.
Et sur ma droite, Grégory Richard.
Bonjour messieurs, bonjour tout le monde.
On n'a jamais été aussi nombreux et on n'a jamais été en physique cette année, je crois.
Non, c'est sûr que non.
Voilà. Cette émission qui vous est proposée par notre partenaire JD Sport, pour vous occuper maintenant que la saison NFL est terminée, vous pouvez vous mettre au sport en profitant des vêtements, chaussures et accessoires de leur campagne fitness, et vous pouvez consulter évidemment les news de l'intersaison sur TD Actu. Au milieu de tout ça et les podcasts, justement, si vous faites du sport, vous pouvez y aller. C'est avec notre partenaire JD Sport, donc on l'a dit, qui nous a accompagnés pendant toute la saison. Surtout les débriefs pour le Super Bowl, on l'a dit, les Rams sont titrés Cooper Cup et MVP. Joe Burrow passe à côté de son premier titre. On revient sur tout ça dès maintenant.
Hey, Kurt Warner here. Hi to everybody at the Touchdown Podcast.
Les Rams sont vos champions NFL 2021-2022, messieurs, c'était écrit, en tout cas ils jouaient pour ça, puisque c'était tout ou rien dès maintenant avec Matthew Stafford, avec Odell Beckham, avec un recrutement 4 étoiles. Le match a été compliqué pour cette équipe de Los Angeles, victoire 23-20 finalement grâce à un stop défensif, notamment signé Aaron Donald en fin de match. Ils ont eu chaud, ils ont été menés quand même un sacré moment, ils ont commencé fort, mais ils ont été menés ensuite. Est-ce que c'est une victoire méritée pour les Rams, Raphaël ?
Oui, globalement, ça reste une victoire méritée pour Los Angeles, parce qu'ils sont devant au score à la mi-temps, ils se font surprendre au retour des vestiaires, mais derrière, ils finissent par repasser devant, et globalement, on ne les a jamais sentis largués dans le match. Que ce soit défensivement encore moins. Offensivement, il y a pu avoir des périodes un peu plus compliquées, mais défensivement, ils ont toujours été dans le match, sauf sur un ou deux big plays accordés à Cincinnati. Donc, ouais, c'est mérité parce qu'ils sont, je pense, hier soir, ils sont les plus forts, tout simplement.
Victor.
Oui, je suis assez d'accord avec ça. Je pense qu'ils ont failli perdre le match un peu tout seul, mais la réalité, c'est qu'ils ont toujours eu le contrôle de ce match. Et finalement, c'est assez logique qu'ils l'emportent. En plus, compte tenu de certains faits de jeu dont on parlera, il y a quand même une certaine justice à ce qu'ils remportent ce Super Bowl, donc pas de problème.
Grégory.
Je suis pas tout à fait d'accord dans le sens où on va dire que ça a tourné dans le bon sens. Alors après, attention, l'histoire c'est pas de dire que la bague qui remporte est volée ou quoi que ce soit, bien au contraire, ça a été une rencontre extrêmement accrochée. Après, voilà, on a eu un Super Bowl disputé, un match où les Rams ont été extrêmement inégaux, je trouve, que ce soit au niveau du côté du ballon ou au niveau des différentes périodes du match, comme ça a été dit. Donc voilà, mais après, ça reste un beau champion malgré tout, vu ce qu'ils ont montré en play-off et vu les ressources qu'ils ont réussi à montrer dans le Money Time sur ce Super Bowl.
Ils étaient menés 17 à 13, les Rams, après un touchdown de T. Higgins dans le troisième carton. Ils ont été menés 20 à 13 ensuite, après un field goal d'Evan McPherson. Donc ça a mis du temps à se dessiner. Il a fallu un touchdown de Cooper Kupp en toute fin de match. Ils n'ont marqué qu'une seule fois en deuxième mi-temps après leur bon départ. Ils menaient 13-3 en début de match. Et puis ils ont eu vraiment un gros calage. C'est Cooper Kupp qui est omniprésent sur le dernier drive. MVP mérité, a priori.
Ah bah oui, avec un dernier drive comme ça où vraiment il est arrivé sur le terrain sur ce drive et il a montré tout son talent en étant capable de se démarquer, parce qu'en plus tu peux te douter que du côté de Cincinnati on s'attendait à ce que Cooper Kupp soit cherché, donc il se démarque et puis il a surtout cette course en 4 et 1 où on lui donne la balle et c'est lui qui casse les chevilles des défenseurs adverses pour aller chercher le yard, alors que c'est pas donné parce que le défenseur adverse arrive très très vite sur lui. Donc oui, c'est le grand bonhomme du match parce qu'il est là sur le drive qui compte le plus de la saison au final.
4 de ses 9 réceptions sont sur le dernier drive à Cooper. 4 de ses 8 réceptions, pardon. Donc la moitié sont sur le dernier drive avec un touchdown. Et cette course, Victor, il a été incontournable. On va revenir un peu évidemment sur Aaron Donald après. Mais c'est pas volé non plus pour Cooper Kupp.
Absolument pas. C'est même assez logique finalement. C'est vrai qu'il y a deux défenseurs qui auraient pu le mériter. Mais la réalité, c'est que les stars, en fait, ont répondu présentes à Los Angeles. Mmh. Et la star offensive cette année, qu'on le veuille ou non, c'est Cooper Kupp. C'est le joueur offensif de l'année. Et il a fait ce que font les grands joueurs, c'est-à-dire, on sait que c'est toi qui vas avoir la balle, mais ça marche quand même. Mmh. Il a réussi à faire la séparation, il a réussi à provoquer les fautes, il a réussi, en effet, à faire la différence en course comme en réception. Oui, clairement... On repensera à ce Super Bowl, on dira le dernier drive, il est signé Cooper Kupp.
Et du coup, et ce qui est encore plus dingue, c'est qu'en plus, on garde à l'esprit, en effet, ce dernier drive, mais même l'action, par exemple, avec les flags qui s'annulent, notamment le holding des Rams, c'est la faute du Bengals, c'est déjà Cooper Kupp qui catch le touchdown. Donc, comme ça a été dit, c'est vrai que voilà, l'attaque des Rams s'étant un petit peu en difficulté en fin de rencontre, on savait clairement que ce serait l'homme ciblé. Et malgré ce, il a réussi à se faire oublier ou à aller chercher des catchs contestés. Donc voilà, ça me paraît logique, même si encore une fois, il y aura toujours ce truc de on privilégie l'attaque plutôt que de la défense. Mais voilà, il y a peut-être plus d'actions significatives en faveur de Cooper Kupp en sa faveur.
Est-ce que c'est pas la plus belle saison d'un receveur quand tu prends sur une année avec cette performance finale sur le Super Bowl, est-ce que c'est pas la plus grande saison d'un receveur sur une année? Franchement,
une des plus abouties, c'est sûr.
J'allais poser la question loin, plus quand je demandais s'il était un MVP légitime. Alors je sais qu'on prend pas, on n'est pas censé prendre en compte évidemment la saison et tout ça, mais c'est vrai qu'en bon plus, il est joueur offensif de l'année et qu'il peut pas être MVP.
Je pense que ça a un peu pesé aussi dans le vote à la fin, ce côté. Il n'a pas pu être MVP parce que c'est compliqué et là, il sort un match exceptionnel donc il mérite d'autant plus de.
Victor, t'as dit un truc qui est intéressant, c'est les stars des Rams ont fait leur boulot et c'est ça qui fait la différence en fait.
Mais évidemment, on attendait en attaque Cooper Kupp, il a répondu présent. On attendait en défense Aaron Donald, il fait 2 sacs et 3 pressions.
Il y a des défenseurs qu'on attendait qu'on n'a pas vu.
On attendait Von Miller, il fait 2 sacs lui aussi, donc quand même Von Miller, superbe pioche en milieu de saison, qui récompense la politique agressive des Rams. Le seul contre-exemple, c'est Ramsey, qui est passé à côté de son match, de à peu près du début à la fin, et qui aurait pu coûter très cher à son équipe. Mais mis à part Jalen Ramsey, globalement, on attendait des gros joueurs. Même Whitworth, il a 40 ans, il fait un match. Alors, il se fait bouffer sur la première action ou presque, mais derrière, il fait un super match, quoi. Donc, je trouve que oui, et même Stafford, bon, ouais, on pourra revenir, il y a des hauts, il y a des bas, mais quand il faut marquer le touchdown de la victoire, il le marque. Tous tes stars étaient là. À part Ramsey, tous tes stars ont répondu présent.
Alors, Matthew Stafford, 26 sur 40, 283 yards, 3 touchdowns, 2 interceptions. C'est vrai que c'est un peu un match en deux temps. C'est-à-dire qu'il débute très très bien. Je crois qu'il a 9 sur 10 sur ses 10 premières passes, avec 2 touchdowns, avec plus d'une centaine de yards. Ça démarre très très fort. Et puis, il y a la blessure d'Odell Beckham. Est-ce que c'est ça le tournant dans son match? Parce que ses stats se dégradent à partir de ce moment-là. Il y a vraiment deux matchs statistiques pour lui. Il y a avant et après la blessure d'Odell Beckham. Est-ce que c'est ça qui joue ou alors est-ce que c'est lié à d'autres paramètres?
Ça peut être une explication, mais c'est vrai que quand on voit... Alors, le ballon est catchable hein, sur la blessure de Beckham, mais même sur cette action-là, on voit que Stafford suralimente peut-être un peu sa passe aussi. Encore une fois, ce n'est pas ce qui est lié au drop, parce que clairement, on voit que Beckham avait le ballon dans les mains et c'est la blessure qui provoque la perte du ballon. Mais il y a eu quelques moments, en effet, où il y a eu des passes peut-être un peu suralimentées. Enfin, je pense par exemple, justement, sur le dernier drive, à cette passe un peu haute, pour essayer de lober Von Bell, alors que Van Jefferson est quasiment tout seul en bout d'en but. Il y a eu cette interception. Alors, Skowronek, on sait qu'il y a eu déjà eu un gros loupé en finale de conférence, je crois, face aux Niners. C'est pas le receveur le plus rassurant, et bon, c'était pas forcément celui qui était appelé à être plus sollicité. Il est rentré forcément de fait de par la blessure de Beckham. Mais même s'il drop également de son côté, on voit que la passe n'est pas totalement assurée. Donc ça reste du Matthew Stafford. Il y a un côté spectaculaire, mais aussi un côté où on sait qu'il va y avoir du déchet à l'image de son interception, de l'interception de Jesse Bates. Donc voilà, c'est pas suffisant pour dire que son match est mauvais, loin de là. Mais c'est vrai qu'il aurait pu coûter cher malgré tout aux Rams globalement.
Bon match ou pas, Raphaël, de Matthew Stafford?
Pour moi, bon match, parce qu'au final, il apporte aux Rams ce qu'il fallait pour l'emporter. Et il y a, comment dire, sur le dernier drive, il y a quand même une ou deux passes pour Cooper Kupp. C'est aussi lui qui va les chercher et qui les place exactement où il faut. J'en ai une, enfin, en deux têtes où Cooper Kupp gagne à peu près 20 yards. C'est sur une deuxième ou troisième tentative où vraiment Matthew Stafford la met exactement là où il faut, comme il faut. Et c'est quelque chose que Jared Goff n'avait pas pu faire lors du dernier Super Bowl. Donc, pour moi, il a apporté ce qui c'était. En fait, c'est exactement ce que j'attendais de Matthew Stafford. Je savais qu'il y aurait du déchet dans son match, mais il y a aussi ces qualités-là qui font que c'est un très bon quarterback.
Il termine avec la cheville bandée, hein, faut pas oublier.
Oui, en plus. Donc ouais, non, pour moi, ça reste un bon match. C'est pas un match exceptionnel de quarterback, mais c'est un bon match et il a apporté ce qu'il fallait en termes de jeu, quoi.
Victor, il y a du déchet. Alors, il y a une des deux interceptions qui est quasiment un punt.
Oui, c'est ça. La première interception, en soi, c'est pas choquant. Enfin, c'est-à-dire que tu te fais intercepter dans l'end zone ou tu punt, ça revient à peu près à la même chose. Par contre, ce qui est dommage, c'est qu'elle est quand même sacrément sous-dosée. Donc, le receveur a jamais vraiment la chance de l'avoir. Alors que, idéalement, si tu balances comme ça cette passe, même si elle est risquée... Idéalement, c'est un 50-50. Là, c'était pas un 50-50, c'était un 100-0 pour Jesse Bates. Et voilà. Bon, c'est vrai, il y a du déchet, il y en a toujours eu hein, chez Matthew Stafford, mais je rejoins Raphaël et c'est exactement ça. C'est le dernier drive, Jared Goff n'aurait pas pu le faire.
Surtout que, enfin, c'est pas que. Je trouve ce dernier drive aussi de Stafford et Kupp, c'est le même qu'ils nous ont fait face aux Buccaneers où ils vont chercher le field goal, en fait, quelque part. C'est les deux mêmes joueurs qui ont cette connexion. Au moment où il fallait, ils sortent le drive et ils le refont en finale. Donc tu peux dire que voilà, c'est Matthew Stafford était là pour ça.
On revient aux stars, on fait le boulot.
Oui. Ah bah oui, complètement. Oui.
En parlant de stars, donc Aaron Donald aurait pu être MVP de ce match, évidemment, puisqu'il y a ces énormes actions à la fin. Il y a ce stop sur un coureur à une main. Ensuite, il y a cette pression. C'est pas un sac officiellement parce que Joe Burrow se débarrasse du ballon, mais il y a cette pression sur Joe Burrow. Aaron Donald, lui aussi, a été au rendez-vous. Et là, pour le coup, comme toute cette défense des Rams, qui a quand même largement tenu la baraque quand le match aurait pu s'échapper, notamment dans le troisième carton et au début du quatrième. Grégory.
Oui, bah, alors moi, c'est l'impression que j'avais, pas uniquement sur ce match, mais c'est ce qui transpire aussi un petit peu sur les premiers cartons. C'est-à-dire qu'on voyait que la O-line des Bengals arrivait malgré tout à laisser du temps à Joe Burrow. Il y avait en effet des moments, bien entendu, notamment sur troisième tentative, hein, je ne sais pas si on en parlera tout à l'heure, mais les stats sur troisième, du coup, s'en ressentent du côté de Cincinnati sur ce match-là. Mais très clairement, on voyait malgré tout que la O-line ne déshonorait pas au niveau du pass pro. Mais ça se voyait quand même que, et ça s'est souvent vu avec cette défense des Rams, c'est notamment avec Aaron Donald, que c'est très usant, mine de rien, de devoir couvrir régulièrement sur Aaron Donald. Et c'est là où on se rend compte, comme ça avait été le cas face aux Niners en finale de conférence, que quand arrive le quatrième quart, quand ça commence à blitzer un peu plus et que Aaron Donald continue de mettre un peu plus de pression, ça commence à craquer de tous les côtés. Et malheureusement pour Cincinnati, ça s'est vu. Et voilà, on ne découvre pas clairement ce que propose Aaron Donald. Et il a continué à l'image de Von Miller, dont parlait notamment Victor tout à l'heure. Ils ont continué à garder cette production, 2 sacs chacun, qui tournait quasiment à 1 sac de moyenne depuis début décembre. Donc, vraiment, c'est ça, c'est vraiment du travail à l'usure qui finit par être payant à chaque fois, et c'est ce qui est extrêmement compliqué quand tu dois protéger vis-à-vis d'Aaron Donald.
On rappelle, les Bengals commencent la deuxième mi-temps avec un touchdown de T. Higgins sur une passe de 75 yards, donc première action de la deuxième mi-temps. Ils passent devant 17-13. Derrière, Matt Stafford se fait intercepter sur la passe suivante. Donc, en une vingtaine de secondes, il y a touchdown d'interception pour les Bengals. Là, on sent quand même que le momentum pourrait largement basculer. Et c'est ce moment-là quand même où la défense des Rams quasiment fait la différence en limitant Cincinnati à un field goal. Et je vous rappelle quand même, derrière, les autres attaques de Cincinnati, c'est punt, 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 punt et cette quatrième tentative mise en échec par Aaron Donald. Donc on peut quand même dire que c'est une victoire défensive, Raphaël.
Ah oui, pour moi c'est effectivement une victoire défensive parce que tu bloques globalement l'attaque des Bengals tout le match. Parce qu'au final, si t'enlèves, alors c'est toujours pareil, est-ce qu'on doit enlever un big play, mais l'attaque de Cincinnati a beaucoup vécu par des big plays qui sont passés. Il y a ce touchdown d'Higgins en plus qui n'est pas totalement net, on va dire ça comme ça. C'est sûr que offensivement, les Bengals ont été en difficulté toute la soirée. Et c'est ce qui permet à Los Angeles, même au moment où ils commencent à prendre un peu l'eau avec ce touchdown, cette interception, de finalement toujours y croire parce qu'il y a cette défense qui a globalement qui a été dominante avec ce front seven. Donc oui, victoire défensive assurément pour moi.
Oui, je pense qu'il y a eu quand même ce moment, c'est ce que Greg disait, c'est-à-dire que la première mi-temps, finalement, Cincinnati tient à peu près au niveau de la ligne, mais sur le match, ils prennent 7 sacs, ils en prennent 5 dans le troisième quart.
Ouais,
et on sent vraiment que c'est le moment où la ligne défensive, front 7 de Los Angeles dit « Ok, voilà, on a gagné le match ». Et on va continuer à vous bouffer jusqu'à la fin. Et ils ont continué à les bouffer jusqu'à la fin. C'est vraiment ce moment-là où ils ont dit, c'est bon, vous avez tenu une mi-temps, sauf que vous n'avez plus d'énergie. Nous, on peut encore continuer comme ça toute la nuit. Mmh. Et vous allez prendre bouillon sur bouillon sur bouillon sur bouillon.
Sean McVay, il faut en parler un petit peu, tant qu'on fait le tour des Rams, c'est le panorama. La défense a tenu longtemps. Sean McVay, c'est un esprit offensif. Il devait donc guider cette attaque. On l'a dit. Très bon début de match, parce que ça marque rapidement. Alors même s'il punte sur la première action, mais il y a touchdown sur la deuxième, il y a touchdown sur la quatrième série offensive, il mène 13-3 à ce moment-là, parce que l'extra point est raté. Donc ça démarre bien. Et puis, est-ce qu'on a vu le Sean McVay timide, qu'on a souvent soupçonné et annoncé pendant les playoffs ? Il y a eu des courses plein centre sur des troisièmes et longues, il y a eu des choses un petit peu... Bah ouais, timide quoi, Raphaël.
Ouais, timide. Moi, c'est surtout, on va dire, sur ce qui m'a encore gêné une fois. Il y a eu ce moment de flottement où on a senti que lui était paniqué déjà. Et je trouve qu'en termes de body language, tout ça, il renvoyait pas quelque chose d'extrêmement confiant, on va dire. Mais bon, ça, encore à la limite. Mais moi, là où je l'attaquerais le plus, c'est clairement sur son. Alors, ce qu'à la base, c'était un peu une de ses marques de fabrique, c'est sur le jeu de course de son équipe. Enfin, c'était. Parce que, encore sur le jeu aérien, il y a un moment où il se retrouve à perdre Odell Beckham. Objectivement, il a plus grand monde en dehors de Cooper Kupp, donc c'est pas facile non plus de développer un jeu aérien incroyable quand tu te retrouves avec et un Van Jefferson qui attrape pas grand chose, donc c'est un peu compliqué. Mais sur le jeu de course, mon dieu quoi, enfin, des courses appelées sur des troisièmes et moyennes en position shotgun sans bloqueur supplémentaire pour aider tes coureurs, des courses plein centre, des. Enfin ouais, on a vu beaucoup de choses où ça allait pas, et alors qu'au début, quand Sean McVay est arrivé, rappelons-le, c'est école Kyle Shanahan, tout ça, mais c'est son jeu de course qui faisait la différence.
23 courses pour 43 yards, oui.
C'est beau.
C'est le plus faible total du Super Bowl par portée, quoi.
Non mais c'est vrai que on en avait parlé notamment lors des previews, c'est vrai que le précédent Super Bowl, en effet, je répète, il y avait cette... un broglio un peu autour de Todd Gurley. Manifestement, depuis la fin de l'ère Todd Gurley du côté des Rams, on a décidé de partir sur un comité du côté de Los Angeles, qui en soi peut être respectable. Le problème, c'est que concrètement, on se rend compte que quand ils sont tous là, Parce que un coup il manquait Anderson, un coup il manquait Mitchell, un coup il manquait Akers, donc voilà, quand tout le monde est là, ouf, ça a l'air dur de savoir comment on gère tout ça, quoi. Donc ça revient un peu à ce que disait Raph, en termes de gestion.
Je sais pas si c'est comité, parce qu'en fait c'est 13 pour Akers, 4 pour Anderson et 2 pour Mitchell, donc ça a l'air assez net, c'est Akers.
Bah, en tout cas, t'as des potentiellement 1 bis qui peuvent être utilisés en fonction des situations. Et c'est vrai qu'on s'est posé la question à un moment donné, parce que Cam Akers, malgré tout, et ça on en revient là-dessus, il a peut-être pas la dimension, même qu'il a pu apporter à Anderson, parce que c'est vrai qu'on prenait l'exemple de Sonny Mitchell, parce que c'est celui qui nous apparaissait le plus en forme, mais encore une fois, de ce qu'on voyait en fin de saison régulière, ça paraissait être celui, ça paraissait être le plus légitime, on dira, du backfield, pour éventuellement sortir justement de la poche et pouvoir proposer une solution à la passe. Anderson a été cette soupape de sécurité, peut-être pas suffisamment, mais en tout cas, il l'a été quand les Rams en avaient besoin. Mais c'est vrai que, ouais, enfin, déjà, on a la sensation que le jeu au sol n'était pas très rassurant. Et puis, enfin, Raph, on sait plus ou moins en parler, mais en termes d'exécution. Moi, j'ai du mal à savoir, parce que lors du fauteuil, on avait évoqué le fait que McVay a sûrement préparé le match de manière optimale, etc., 3 ans après son échec cuisant d'Atlanta. Et tu te demandes, tu te dis, mais c'est l'exécution qui n'est pas bonne ou c'est les appels qui ne sont pas bons? Parce que là, en l'occurrence, la ligne, elle a été mais engloutie par la D-line de Cincinnati, quoi. Donc, à ce niveau-là, c'est quand même incroyable de se dire, quel que soit le niveau des running backs, et c'est encore plus inquiétant quand tu sais que Cam Akers n'a pas une protection du ballon excellente, se retrouver quasiment avec un défenseur sur le dos alors que tu n'as même pas touché le ballon, c'est quand même un peu compliqué. Et encore une fois, surtout quand tu as un Matthew Stafford qui reste avec un jeu spectaculaire, qui est blessé en cours de route et à qui tu mets 2 fois plus de pression de facto, quoi.
Victor ?
Bah oui, pour le coup, pour moi, les running backs pouvaient pas faire grand-chose, en fait. La ligne a été catastrophique au niveau de la course, pas au niveau de la passe. Hein, mais je veux dire, ils se sont fait enfoncer par Hubbard, par Hendrickson, par Reader toute la soirée. Les schémas de bloc étaient étonnants parce que déjà, ça ressemblait pas du tout à du McVay. C'est-à-dire qu'on avait souvent des mouvements de la ligne et le coureur qui partait de l'autre côté. Ce qui est quelque chose qui peut être fait, hein. Ça existe en NFL, mais c'est pas vraiment les signatures move que peut avoir un mec comme McVay. Donc, je sais pas, j'ai l'impression qu'il a voulu dire « Regardez, je vais être plus intelligent que les autres, je vais vous surprendre, je vais faire un truc que vous avez jamais vu avec moi ». Ben, ça n'a pas marché. Il a été le boulet de l'équipe pendant tout le match. Franchement, si Los Angeles ne gagne pas ce match confortablement, c'est principalement à cause de Sean McVay.
Il y a aussi ce truc-là, c'est que le fait que McVay et Taylor se connaissent, il y a peut-être le fait de se dire, en plus avec 2 escouades défensives qui sont bonnes, il y a peut-être le fait de se dire, attention, le coordinateur offensif va être un peu aiguillé sur mes tendances, etc., etc. Donc peut-être qu'en effet, on a voulu en faire un peu plus. Et c'est peut-être là où, en effet, McVay a recommencé à déjouer comme il avait fait en 2018, maintenant, si j'ai pas de mémoire.
C'est un beau champion quand même, avant de clore la page Rams.
Bah oui, ça reste un beau champion. C'est pas le champion le plus dominant qu'on ait vu de l'histoire ou même des dernières années. Mais ça reste un beau champion parce que c'était tellement de joueurs talentueux et tellement de vétérans en mission pour aller gagner cette bague que ça reste beau de l'avoir fait, parce que faut se rappeler, quand Stafford arrive, la cote pour que les Rams gagnent le Super Bowl, elle explose à ce moment-là à l'intersaison. Les Rams sont parmi les favoris des bookmakers, tout ça. Il y a un gros début de saison, puis ils rentrent un peu dans le rang et tout le monde commence à se reposer des questions, et au final ils remontent sur scène. Donc non, pour moi c'est clairement un beau champion.
Oui, je vais le répéter, mais ils sont quasi invaincus depuis début décembre. Donc voilà, à partir du moment où, un peu sur le modèle des Chiefs avec quelques saisons de ça, quand tu commences à être vraiment dominant quand ça compte, voilà, ton statut de champion est tout sauf galvaudé.
Ouais, il y a tellement de joueurs qui méritaient une bague. Alors tous les joueurs peuvent mériter une bague, mais... Bon voilà, Aaron Donald, défenseur historique, Matthew Stafford quand même qui a galéré tellement de temps à Détroit. Whitworth qui a eu une carrière incroyable, qui a 40 ans et toujours dominant. Enfin, tant de joueurs où on se dit ouais, c'est bien qu'ils aient une bague, quoi. Donc oui, pour moi c'est plutôt un beau champion.
Playoffs? Don't talk about playoffs? You kidding me? Playoffs? I just hope we can win a game.
How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Les Rams sont donc champions, mais si on n'a pas encore beaucoup parlé du challenger, du vaincu, les Cincinnati Bengals, on va le faire évidemment dès maintenant parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Qu'est-ce qu'il a manqué aux Bengals ? On va commencer par ça, même si c'est une question un peu vaste. J'avoue que j'aurais pu faire plus anglais. Qu'est-ce qu'il a manqué aux Bengals ?
Bah, une ligne offensive, voilà. Entre autres, c'était malheureusement un des matchs clés pour Cincinnati et bah, ça a tourné au vinaigre, on l'a dit, hein, surtout en deuxième mi-temps. Mais la réalité, c'est que cette ligne, ça va être la priorité de l'intersaison pour les Bengals parce que ça leur a sûrement coûté le match. Aujourd'hui, à part Jonah Williams, il n'y a aucun joueur qui surprend vraiment, qui progresse. Burrow, en plus, a eu quand même... Il a fait un match très proche de Tennessee, c'est-à-dire à prendre des sacs un peu parfois bêtes, alors qu'il aurait pu balancer la balle. Sa gestion de la poche a pas été celle de la finale de conférence. Donc, non, les playmakers étaient là, ils ont essayé de faire des choses. Le coaching n'a pas été trop mauvais. La défense a été vraiment excellente, mais la ligne offensive les a plombés.
Est-ce qu'ils auraient dû sélectionner Penny Sewell, du coup
Chase, ah bah, c'était compliqué d'avoir les deux. Hein, ça, c'est sûr que bon, ça n'aurait pas fait de mal. Après, encore une fois, c'est toujours la même chose. C'est souvent ce qu'on entend par rapport à Shanahan, à Atlanta. Voilà, cette politique leur a au moins permis d'aller au Super Bowl. Donc après, voilà, c'était un axe d'amélioration très net. Malheureusement, en effet, c'est ce qui a été un élément un peu rédhibitoire pour espérer gagner au bout. Mais ça rejoint un peu ce qu'on disait sur les Bengals pendant toutes ces playoffs. C'est-à-dire que malgré tout le talent qu'avaient en effet Burrow et Chase, leur capacité, je pensais de là notamment, hein, on rappelle, il y a Higgins, Mixon qui font une bonne saison, mais c'est vrai qu'on mettait beaucoup l'emphase sur l'attaque, alors que, à mon sens, la star des Bengals, depuis le début notamment de ces playoffs, c'était la défense. Et là, on a vu malgré tout qu'il manquait peut-être ce petit coup de collier offensif nécessaire aux Bengals. Après, il y a une équipe qui joue en face, hein, il y a une défense vaillante, comme on l'a dit tout à l'heure, mais voilà, c'est la ligne, c'est peut-être aussi les décisions, on en parlera sûrement tout à l'heure, mais en tout cas, oui, c'est vrai que la ligne a été un gros point noir, notamment en deuxième mi-temps pour Cincinnati.
Raphaël, on a dit qu'ils étaient un peu à réaction, en tout cas qu'ils vivaient par le big play, et voilà, en fait, au final, ça finit par leur coûter, quoi.
Ouais, ça finit par leur coûter, parce qu'ils n'ont jamais réussi à installer un jeu, on va dire, plus, pas routinier, mais une attaque plus régulière, sans doute en partie à cause de la ligne, effectivement. Même si à mon avis cette ligne offensive n'est pas un seul joueur prêt d'être bonne, mais bon, c'est encore un autre sujet. Mais ouais, et puis je pense que l'incapacité à installer le jeu au sol leur a coûté cher aussi. Ça aurait soulagé un peu tout le monde si Joe Mixon avait pu. Alors, je pense que tous les calls appelés au sol n'étaient pas forcément non plus excellents. Taylor, à mon avis, c'est un peu paumé là-dedans, mais le fait de ne pas pouvoir installer le jeu au sol, ça a aussi mis encore plus de pression sur Burrow. Il finit un peu blessé, une ligne offensive qui commençait à prendre de plus en plus le bouillon, et tu finis par être en difficulté, à ne pas pouvoir manger le chrono comme tu l'aimerais. Et clairement, c'est leur axe de progression, on l'a vu cette saison. Il faut peut-être un peu diversifier le playbook en attaque avec plus de petits jeux, de gains intermédiaires. C'est vrai que par exemple, il y a eu quasiment. Là, il faudrait tout revoir, mais j'ai. pas de souvenir de petites passes au milieu de terrain, dans les 5-10 yards, juste, enfin, tu vois, c'est des calls que j'ai pas vus. Par contre, ça te balance sur les côtés, ça, il n'y a pas de souci. Mais bon, voilà, variété, après, ils y viennent de tellement loin que franchement... Bon.
Après, la ligne te permet de faire ça aussi, d'avoir un rythme, d'avoir une attaque plus posée.
Ouais, après, on a vu des attaques avec une ligne très moyenne qui, justement, joue de la petite passe très rapide.
Tu vas parler de Zach Taylor ou pas?
Ah bon, on va y arriver.
Non, mais parce que du coup, c'est plus ou moins lié. J'en parlerai tout à l'heure pour Zach Taylor.
Vas-y.
Non, mais pas. C'est toujours pareil parce que... On dit la ligne offensive et a raison à, on va dire, à sonner le glas des espoirs de Cincinnati en deuxième mi-temps, mais on le sait, ça aussi c'était identifié, que cette ligne était beaucoup plus performante sur le jeu au sol que sur le jeu à la passe. Et je n'ai absolument pas compris comment, en menant au score, surtout d'un touchdown, avec un touchdown d'avance, pourquoi Cincinnati s'est évertué, on l'a même vu notamment devant leur end zone ou ce genre de choses, à vouloir absolument tenter des passes. Alors que justement, la ligne commençait à souffrir vraiment sur le pass pro. Et pourquoi on ne s'est pas plus appuyé sur Joe Mixon, qui certes n'a peut-être pas des stats trois fois plus impressionnantes que celles des running backs des Rams, mais qui en tout cas a été capable d'aller chercher des gains intéressants et des premières tentatives. Donc c'est vraiment à ce niveau-là où, certes, ta O-line ne t'aide pas toujours, mais si tu n'optimises pas son rendement non plus, pour moi, c'est problématique aussi.
Non mais pour le coup, moi je trouve Raphaël dur quand il dit pas installer un jeu de course, parce que 20 courses, 80 yards, 4 yards par course, Mixon il y a 15 courses, 72 yards, 4.8 par course.
Au début du match ils sont solides
au début,
là-dedans.
Au début, ouais,
mais globalement, ça... oui mais c'est pas le jeu de course qui est pas installé, c'est comme le dit Grégory, c'est qu'à un moment... Dans le troisième quart-temps, t'as l'impression que Zach Taylor a oublié d'appeler des courses et qu'il appelle passe sur passe sur passe sur passe. Rien n'empêchait de demander à, de continuer à faire des courses parce que globalement, le jeu de course, ça marchait bien. Donc pour moi, je suis assez d'accord.
Et en plus, ça te tue Burrow entre guillemets parce que lui aussi, comme Stafford, il se retrouve blessé. Sauf qu'apparemment, c'est plus problématique parce qu'on a sorti qu'il y avait une réelle absence de mobilité.
Il ne peut plus bouger sur dernier drive. Mais je pense que Zach Taylor, pour le coup, fait une erreur énorme en milieu de troisième quart-temps, et c'est peut-être ce qui leur coûte la victoire.
Non, t'as raison, effectivement, installer n'était pas le bon terme, puisqu'il y avait du jeu au sol et que ça fonctionnait. Et effectivement, quand je disais installer, j'entendais plus cette continuité dans le jeu au sol, parce que notamment, moi ça me marque, si je dis pas de bêtises, sur la 3ème et 1, où ils se font stopper par Donald, c'est Perrine qui l'envoie sur une 3ème et 1 et pas Mixon, en plus dans une formation shotgun, donc t'as même pas d'extra bloqueur, t'as même pas de... Et donc c'est dans ce genre de call où, au sol, je pense, enfin, c'est qu'en plus quand il appelait, les peu de courses qu'il appelait étaient pas forcément bien appelées, c'est là où...
Après sur du short yardage, bon, ce match de Pirine, il est costaud, mais là tu
sens
40 Donald,
il a poussé d'affaire,
oui, non, mais ça là-dessus, je suis d'accord.
Après, ce que j'entends quand je vous écoute, c'est que le problème en termes de coaching, c'est qu'il meurt de choses dont on connaissait l'existence, c'est-à-dire qu'il meurt parce qu'il développe pas un jeu court pour libérer Joe Burrow de la pression, il meurt parce qu'il vit beaucoup trop sur les big plays...
En fait, c'est le même problème que pour McVay. C'est-à-dire qu'encore une fois, peut-être que Taylor se dit « Oui, ma O-line est capable de faire ça, mais moi, je pense que les mecs sur le pass pro, ils sont capables de laisser suffisamment de temps pour trouver une nouvelle fois ce big play qui va réussir à faire la différence, comme on a réussi à faire la différence sur les actions précédemment. » Et t'essayes de t'en convaincre, sauf qu'à bout d'un moment, quand c'est un peu tard et que du coup, mine de rien, la défense des Rams, notamment, a commencé à prendre confiance, c'est un peu plus compliqué. On a vu que même quand ils ont recommencé à courir, justement, et on en revient par exemple à l'exemple de Pirine sur la 3ème et 8, même quand ils ont recommencé à courir, les Rams étaient tellement aux aguets à être systématiquement en position de blitz, ou en tout cas avoir vraiment une poche extrêmement renforcée, que tu cours ou que tu essayes de passer, ça devient compliqué.
D'ailleurs, il meurt de choses identifiées, l'inefficacité dans la red zone. Leur premier field goal, ils sont sur les 11 yards des Rams, le deuxième, ils sont sur les 20 yards après une interception. On en a parlé pendant tous les playoffs. Donc là-dessus, il n'y a pas de surprise non plus, malheureusement pour eux. Joe Burrow, vous l'avez dit, a été ralenti en fin de match par une blessure. C'était au genou, ça a tourné un petit peu. Il finit à 22 sur 33, 263 yards, un touchdown. Il y a évidemment, en plus, des stats qui sont gonflés par le touchdown de 75 yards de T. Higgins, qui sont très largement gonflés. L'autre touchdown des Bengals, c'est sur une passe de Joe Mixon, pas de Joe Burrow. Est-ce que Joe Burrow a été bon dans ce match? Est-ce qu'il a été au rendez-vous du Super Bowl?
Je dirais pas qu'il a été bon, je dirais pas qu'il a été mauvais non plus. Je pense qu'en effet, ses stats sont meilleures que sa performance réelle. Ce qu'il faut dire aussi, on parle beaucoup de ce big play de 75 yards, il y a un énorme face mask. Ce touchdown ne doit pas être accordé théoriquement. Et évidemment, merci à NFL de rendre les face masks non reviewable à vidéo, comme on dit. Mais voilà, je veux dire, globalement, il n'a pas coûté à son équipe, il a limité les erreurs, mais il n'a pas fait la différence qu'on pouvait attendre de sa part. Il n'a pas fait le jeu qui permet des temps de drive, le jeu qui permet de marquer le touchdown, le jeu qui permet de... Donc, je dirais que c'est une performance moyenne d'un sophomore. C'est jamais qu'un deuxième année. Il apprend. Le jour où il revient au Super Bowl, dans 1, 2, 5, 8 ans, je lui souhaite d'y revenir un jour, il aura appris et il sera certainement plus à même de faire la différence.
Ouais, c'est ça. Je suis d'accord en fait avec ce que dit Victor. C'est que si tu recontextualises, c'est une prestation correcte d'un quarterback sophomore qui arrive à cet endroit-là avec une ligne qui est compliquée à gérer, une ligne offensive pour lui compliquer, tout ça. Le seul truc, on est tous un peu déçus parce que ce qu'on avait vu ces dernières semaines de Joe Burrow, c'était un Joe Burrow qui allait au-delà de ce statut de quarterback sophomore et qui apportait ce petit plus. Là, il n'a pas réussi, on ne va pas lui en tenir rigueur, il aura sans doute d'autres opportunités, même si ça pourrait ne pas être si simple que ça parce que la conférence va être rude et que il aurait mieux valu quand même se prendre sa bague tout de suite, ça enlevait un peu de pression. Mais non, clairement, je rejoins Victor, ça, c'est une prestation correcte, mais pas forcément ce que tu pouvais attendre.
Déjà, il ne tue pas son équipe.
Voilà, c'est vrai.
Non, mais c'est toujours pareil. En fait, les cartes sont toujours brouillées par notamment Patrick Mahomes. On s'attend toujours à ce qu'un joueur, dès qu'il commence à sortir un peu, dès qu'il commence à se révéler, il va sortir des matchs à 500 yards, etc. Joe Burrow, à mon sens, il fait un match plus ou moins similaire à Matthew Stafford. J'ai pas dans l'idée qu'il y a un quarterback qui est surclassé l'autre, même si forcément il y a plus d'interceptions pour Stafford par exemple, mais il y a plus de TD de l'autre côté. Enfin, voilà, il y a une prestation assez correcte. En effet, malgré les problèmes qu'il y avait autour de Joe Burrow, notamment cette O-line qui a commencé à se disloquer petit à petit, il a quand même répondu présent. Après, oui, voilà, faut qu'il continue à s'aguerrir aussi, et ça, je pense que dans les mois à venir, ça ira beaucoup mieux pour Cincinnati. En tout cas, il y aura encore plus d'aisance offensive qu'il y en a encore aujourd'hui. Mais oui, après en soi, pour répondre à ta question, non, j'ai été déçu par Joe Burrow dans les choix qui ont pu être faits, notamment sur les troisièmes. Ce que je disais tout à l'heure, je crois qu'on est à 20% de réussite sur troisième tentative. C'est quand même bien peu quand justement tu es censé être un quarterback clutch. Après, voilà, bon, encore une fois, je vais le répéter, mais voilà, on ne va pas trop en demander non plus. Voilà, il aurait pu avoir cette faculté supplémentaire, mais clairement, ça a été dit, c'est pas lui qui fait perdre l'équipe et il aura permis de...
On parlait des causes de la défaite, en effet, hein, ils sont à 3 sur 14 sur 3e tentative, 1 sur 3 sur 4e tentative, 1 sur 3 dans la red zone, donc forcément, ça finit par les rattraper, sachant qu'ils ont eu le ballon à peu près le même temps et que ça se joue à 3 points, forcément, ça fait très très mal à ce niveau-là. Un petit mot pour la défense quand même, on a dit que c'était une bonne prestation défensive, qu'ils avaient été la star des playoffs. Trey Hendrickson et DJ Reader ont un sac chacun, ils ont été très présents.
Le front 7 a été excellent hein, parce qu'on parle souvent des 4 devant Hubbard, Hendrickson, Reader à juste titre, mais on a par exemple un match de Logan Wilson sur la ligne de linebacker excellent, même en couverture il a fait quelques belles actions, toujours présent sur le joueur adverse. Donc le front 7 a fait un excellent match. Après, ils ont été embêtés par ce qui était identifié comme un de leurs potentiels points faibles en défense, c'est Eli Apple, le cornerback numéro 2, et qui effectivement, c'est lui sur le touchdown de Cup sur le dernier drive, et je me demande si c'est pas déjà lui sur le tout premier touchdown de Cooper
Cup. Non, sur les deux de Cup.
Sur les deux de Cup, c'est lui. Bon, voilà, c'était identifié comme leur point faible dans le backfield défensif, et il leur coûte un peu la victoire, mais globalement, ça reste une super performance parce que tu maintiens les Rams à 23 points et tu les mets en difficulté une bonne partie du match quand même.
Oui, je pense que cette défense des Bengals, je pense qu'elle m'a encore impressionné par son niveau d'implication. Ça a été une défense extrêmement agressive. Je ne pense pas qu'ils pouvaient faire plus que ce qu'ils ont fait, très franchement. Encore une fois, avec une équipe qui n'a pas non plus des big stars dans son effectif, je pense qu'ils ont vraiment été à 100% sur ce match-là. Ça ne suffit pas, mais parce que voilà, il fallait peut-être un petit peu plus de choses, un petit peu plus d'éléments. Oui, il y a un backfield défensif, en effet. Enfin, là encore, ça peut être frustrant quand on est fan de Cincinnati parce qu'on se dit on connaissait les clés avant le match et on perd à cause de ces clés après le match. Mais voilà, ça se joue vraiment à quelques détails. En effet, si on sort Eli Apple sur des actions clés, il n'y a pas grand-chose à reprocher globalement à cette défense.
Oui, je suis assez d'accord. On a parlé de coaching un peu défaillant avec Sean McVay ou Zach Taylor. Lou Anarumo, je pense que c'est le coordinateur de ces playoffs. Quand on voit ce qu'il a réussi à faire avec un groupe qui est talentueux mais incomplet, je dirais. C'est assez phénoménal. Le point noir pour moi de cette défense, c'est cette faute personnelle de Von Bell sur le dernier drive, puisque s'il ne fait pas la faute personnelle, il y a un holding d'Avenstein, et du coup, au lieu d'une première et 1, on est sur une première et 11, et ça peut changer ce match. Mais clairement, la défense a répondu présent. Jesse Bates prouve chaque match cette saison qu'il est un des meilleurs de la ligue à son poste.
On rappelle qu'il est agent libre.
Oui, il est agent libre, mais
il sera tagué.
Il va être signé, t'inquiète pas.
Je serais très étonné qu'il ne soit pas tagué ou re-signé. Mais surtout qu'ils ont du cap. Ça ne fait pas partie de ces équipes qui manquent d'argent. Donc voilà, il y a une vraie base. Il y a une vraie base et un coach qui a réussi à emmener ce groupe à faire plus que ce dont il était capable au début de la saison.
Et bah tu fais bien de parler de la suite. On va donner un mot sur la suite pour cette équipe. Ils sont très jeunes. On a parlé de Super Bowl pour Joe Burrow dans 2, 3, 5, 8 ans. Ils ont les bonnes bases. Et là encore, on connaissait les clés du match. On connaît peut-être les clés de la suite. C'est ligne offensive et renforcer la défense, compléter la défense.
Ouais, c'est ce que j'allais dire. C'est que l'avantage là pour le manager général de la franchise, les chantiers d'intersaison semblent assez clairs. Enfin, je veux dire, faut pas être un génie du management pour sentir qu'il faut renforcer le côté droit de ta ligne, notamment offensive.
À Seattle, faut pas être un génie du management, mais ils l'ont jamais fait.
C'est vrai. Il y a des philosophies. Je suis d'accord. Mais bon, globalement, oui, le côté droit de la ligne offensive et puis en défense, on rajoute un peu de talent. Bon.
Notamment au poste de cornerback.
Voilà.
Pour le coup, qui sera certainement la priorité, parce que bon, Chidobe Awuzie est un joueur tout à fait honorable, hein, mais bon, avoir un gros cornerback de l'autre côté, ça ferait pas de mal.
Oui, corner, et puis des deux côtés de la ligne, parce qu'il y a trois defensive tackles, je crois, qui vont être free agent entre Wunjobi, Reader et Hill. Donc voilà, mais priorité des priorités, ligne offensive, très clairement.
On termine avec les tops et les flops. Les derniers top et flop de l'histoire de TDA, plus jamais il n'y en aura. Je ne sais pas si en post-prod je vais mettre la marche funèbre de Chopin par-dessus cette séquence, mais en tout cas nous abordons un moment décisif, le dernier top flop de la saison, le dernier top flop donc de l'histoire de TDA. Raphaël va tout faire en dernier, je veux que ce soit lui qui ferme la marche. Il a fait le premier top flop, je crois, de l'histoire de TDA.
Bah voilà,
il fera le dernier.
Bouclé.
On va commencer avec le top de Victor.
Aaron Donald, parce que c'est vrai qu'on en parlait un peu en off avant l'émission avec Raphaël. Le fait de gagner un titre collectif pour un joueur individuel ne rajoute pas forcément à sa légende. Par contre, le fait de gagner un titre en étant décisif dans le match, en faisant deux sacs, en étant l'homme sur la photo sur la dernière action, avec cette image où il montre son doigt « j'ai une bague », bah ça, pour le coup, c'est le Lawrence Taylor 86, c'est des images qui marquent, c'est ça qui fait aussi la légende de ces joueurs-là. Et quand bien même ça soit un sport collectif, on retiendra, la plupart des gens, on le voit sur les réseaux sociaux, disent « Aaron Donald a une bague », c'est une sorte d'accomplissement pour un des meilleurs joueurs de sa génération. Donc je suis très content pour lui et il le mérite amplement.
Tu veux dire que ça aurait été un couac s'il n'avait pas eu de bague?
Oh là là, on est Jean-Michel Genemot.
C'est bon,
tu l'as.
La nuit était courte, mais c'est bon.
Matthew Stafford, je suis un peu obligé. On l'a dit, Matt, c'est pas parfait. Il y a eu notamment des grosses difficultés d'automatisme avec Van Jefferson, même si Victor est un peu bluffé par les 4 réceptions, parce que ça nous a pas sauté aux yeux tout au long du match. Mais oui, franchement, c'est vrai que là, en plus, on l'a dit, avec un jeu au sol qui était clairement pas au rendez-vous du côté de Los Angeles. Voilà, réussir malgré tout à être clutch en étant bien aidé par Cooper Kupp, mais il faut aussi lui envoyer les ballons, hein, faut aussi avoir le bon timing, et il a quand même réussi à le faire malgré le déchet qu'on a pu constater par moment. Donc voilà, ça vient quand même récompenser une carrière un petit peu compliquée, notamment d'un point de vue structurel, on va pas revenir dessus, mais voilà. Matthew Stafford pour moi.
Alors pour ma part, il y avait Andrew Whitworth, donc avec cette stat que tout le monde a bien aimé, que c'était le premier joueur de l'histoire du Super Bowl à être plus vieux que les deux coachs principaux en course. Mais il faut quand même reconnaître cette grande victoire hier, hein, pour la team nique les choix du premier tour de la draft. Donc je peux pas passer à côté de ça. C'est la victoire d'une philosophie, hein. C'est vraiment une nouvelle ère qui s'ouvre dans la NFL. J'ai immédiatement informé Grégory d'ailleurs qu'on annulait, hein, la diffusion du premier tour de la draft en direct sur TDA, puisque ça ne sert absolument à rien.
Aaron Donald, des premiers tours.
Il me l'a dit, c'est ce qu'il m'a répondu aussi. C'est ce qui m'a répondu.
Odell Beckham aussi.
Ceci étant dit.
Von Miller aussi, Leonard Floyd aussi. Tu peux aller loin.
Jalen Ramsey.
Oui, mais c'est pas les leurs.
Oui, mais bon, ça reste des mecs qui ont été draftés au premier tour initialement. Donc c'est pas comme si ça servait à rien.
Tu prends ceux des autres équipes qu'ils ont réussi et tu les récupères avec les tiens.
Bah oui, mais après tu prends le salaire.
Eh ben ça, c'est pas grave, on s'en fout.
Voilà,
on
n'est
pas, tous comptables autour de la table. donc, évidemment, je taquine. Le premier tour de la draft sera bien en direct sur TDA. Hein, je vous rassure, ne vous inquiétez pas, ce sera sur Twitch. C'était un petit clin d'œil qui me faisait marrer. Même si, évidemment, on rappelle que les Rams ont beaucoup de choix de draft à eux, mais juste pas forcément du premier tour, mais ils ont beaucoup de choix de draft dans l'effectif, dont l'immense Van Jefferson dont on a parlé d'ailleurs. Raphaël, le dernier top de l'histoire de TDA.
Écoute, tellement de joueurs du côté, je trouve, des Rams. Moi, ça fait longtemps que j'ai pas souvenir d'une équipe championne avec autant de joueurs de parcours individuel où t'avais envie de les voir récompensés parce qu'il y avait tellement de vétérans qui attendaient des bagues, qui attendaient des titres que franchement, tu peux en citer quasiment une dizaine du côté de Los Angeles. Donc, pas évident. Vous les avez pris tous en partie. Du coup, ouais, moi je vais aller peut-être sur Eric Weddle, plus pour le côté, il y a encore un mois, il buvait des margaritas dans son jardin au soleil. Et puis on l'appelle. Alors, oui, effectivement, vu comment il était fit, il ne devait pas faire que boire de la margarita, je vous l'accorde. Mais.
Un peu de protéines dans la margarita.
Il buvait des Gatorade,
Ouais, il y a moyen, effectivement. Non, mais le côté, je trouve ça assez incroyable qu'il y a encore un mois, voilà, il s'entraînait a priori tout seul de son côté. On ne sait pas, est-ce que c'est les Rams qui lui passent un coup de fil, est-ce que c'est lui qui se propose aux Rams, je ne sais pas trop. Mais en tout cas, il remplit sa mission et là, il annonce directement après prendre la bague qu'il repart à la retraite. Enfin, en termes de mission commando d'un mois et demi.
Et puis, j'avoue que c'est. Et puis, pas à moitié parce qu'il était responsable des appels de jeu. Il avait le casque radio et tout
et
ça.
Et visiblement, donc, là, d'après les échos, il a fini le match avec une blessure au pectoraux. Donc, en plus, il a serré les dents jusqu'à la fin. Enfin, je trouve que du coup, là, le parcours en termes de. Est quand même assez incroyable.
Le flop, Victor.
C'est dur. Jalen Ramsey. Ah non, mais c'est bien. Je suis bien content.
Bon match, quoi.
Je suis bien content qu'il n'ait pas la capacité d'ouvrir sa bouche pendant un mois. Il va devoir la jouer discrète. Encore, est-ce qu'il sait de faire, je ne sais pas. Mais ils ont tous été bons sauf lui. Il a quasiment coûté le match.
Après, il fait une bonne saison. Ça non, récompense il fait une bonne, bonne saison. Saison. Okay. Mais c'est vrai qu'il n'a pas été aussi décisif qu'on pouvait
l'attendre. Non, mais ok, c'est un top 3 cornerback. Il réalise une super saison, etc. Il s'est planté au grand match. Il prend une première grosse réception. Il tente, au lieu de juste assurer en fin de match, il tente une interception un peu quand même très risquée, ce qui coûte une grosse réception de Jamar Chase, hein, si je ne dis pas de bêtises. En fin de match, c'est Jamar Chase qui fait du yard après catch. Donc voilà, moi c'est un joueur que je porte pas particulièrement dans mon cœur, mais
si tu veux, je pense que c'est amplifié. On va pas faire 3 heures parce que c'est ton flop, mais c'est amplifié par le fait que les autres défenseurs en mission commando sont au rendez-vous et sont nickel. C'est là, en effet, tu te dis bon, c'est vrai que le gars, il y a encore ce côté un peu entre guillemets individualiste, le côté je vais être la star. Plutôt que de se dire je vais faire le jeu important et le jeu intelligent pour mon équipe. C'est plus dans ce sens-là, je pense que Ramsey est plus critiquable avec des grosses guillemets ou en tout cas dont la prestation est plus à remettre en question par rapport à d'autres.
Greg, ton flop.
Bah, je pense qu'on est obligé d'en parler, messieurs, mais ce show de mi-temps absolument quelconque.
Ah, c'est vrai qu'on n'a pas parlé du show de mi-temps.
Bah, je suis désolé. Moi, j'adore parce que du coup, qu'est-ce que vous avez pensé du show de mi-temps? Bah, c'est bien parce que j'ai vu Dr. Dre chanter. Ah, bah. On s'y attendait pas du coup.
C'est le meilleur show de l'histoire selon tous les médias américains.
Après je fais un peu de provoque. C'était sympa pour le côté clin d'œil. Je pense que c'était un show de mi-temps méga boomer. Voilà, il y en a qui s'y sont retrouvés. C'est pas forcément les spectateurs les plus jeunes, mais en tout cas voilà, ça a trouvé son public, je pense. C'est bien d'avoir un peu de hip-hop de temps en temps au Super Bowl, mais on en discutait devant le match, mais c'est devenu d'un lisse les shows de mi-temps, mais c'est voilà. Quoi. En même temps, tu les mets sur un camion et ils font deux allers-retours. Quoi.
En
c'est...
même temps, inviter 4 ou 5 rappeurs en leur demandant de pas dire de gros mots, de pas dire ceci, de pas dire cela, ça édulcore un petit peu l'âme de leur art.
Oui, certes, certes. Mais bon, même c'est, enfin, je sais pas, c'est, je trouve ça assez vide. Il y a plus le côté vraiment spectacle.
Mais Raphaël l'a mieux décrit. Je t'ai vu sur Twitter dire que c'était du fan service. C'est vrai qu'on est dans l'ère du fan service. Voilà,
c'était complètement du fan service. Chacun a pu voir un peu son rappeur 2000 avec son clip. Après, ça reste le problème. Ouais. De toute manière, sur un show de 15 minutes où t'as 5 artistes qui doivent tous faire un bout de chanson, de toute manière, c'est tellement un medley
d'un titre.
Ça manque un peu d'âme.
Moi, j'avoue que j'ai beaucoup aimé le bat 50 Cent qui apparaît à l'envers. Le 50 Cent qui apparaît en chauve-souris là, perché à l'envers, j'ai beaucoup aimé. Mais après, c'est vrai que c'était bon. Après, il y a aussi ce problème, c'est que quand les gens s'ambiancent énormément, quand tu attends énormément de choses, forcément, tu vas être déçu. Et puis, comme vous le disiez, je vois pas ce qu'on pouvait attendre finalement d'assez grandiose de gens à qui on demandait de faire quand même une version family friendly de leur tube. Et puis, j'avoue que moi, je suis pas hyper toujours client de la méga nostalgie. Donc, ouais, genre Lose Yourself d'Eminem, 8 Miles, ça a 20 piges quoi. Donc, ouais, pourquoi pas. Hein. Victor, toi,
c'était fade comme tous les shows de Super Bowl. Pourtant, pour le coup, enfin moi pareil, on est tous d'une génération qui était quand même la cible de ce show, parce que bon, c'est notre jeunesse pour le coup, tous ces mecs-là. Mais c'était fade comme toujours, donc bon. La seule chose qui m'a étonné, c'est que Snoop Dogg, je crois que c'est la première fois que je le voyais sobre. Enfin, en tout cas,
c'était plus énergique des cinq.
On l'avait jamais vu sans. Là, il était sous aucune influence. Et alors ça, c'est incroyable. Ça, c'était le truc le plus incroyable.
Bon, c'était plutôt fadasse. Donc du côté du show de mi-temps, moi je vais revenir au match pour mon flop. C'est pas le joueur en l'occurrence, hein, c'est vraiment sa blessure. J'étais assez triste qu'on soit privé d'Odell Beckham sur la fin du match parce qu'il commence bien et on parlait des joueurs en mission et tout ça. C'était sympa de le voir marquer, ça aurait été sympa de le voir vraiment profiter de tout le match et d'être un peu plus présent. C'est vrai que ça a en plus quand même beaucoup réduit l'attaque des Rams en termes de cible et au niveau des options. On rappelle qu'il était déjà sans Robert Woods, leur receveur numéro 2, qui avait été plus ou moins remplacé par Odell Beckham, hein, de fait. Donc voilà, il avait bien commencé, il était quand même vraiment... il faisait partie de ces joueurs en mission et qui répondaient à l'appel. Donc, tu parlais des défenseurs qui avaient répondu à leur mission. Lui aussi, quoi, en captant le premier touchdown, en étant là, c'était voilà. Donc top de voir Odell Beckham finalement titré et d'en profiter. Et flop, encore une fois, c'est pas contre lui, hein, mais c'est justement triste de le voir se blesser là-dessus. Heureusement, finalement, et heureusement, ça n'a pas l'air d'être trop trop grave non plus, parce que sur le coup, ça fait assez peur quand il tombe comme ça en se tournant au genou. Donc, visiblement, ça a l'air d'être pas trop trop grave. Raphaël, lourde responsabilité.
Bah, d'autant plus que tu m'as volé mon flop.
Ah donc, mince, désolé.
J'avais exactement le même parce que Odell Beckham en plus commençait très fort le match. Il était parti, à mon avis, pour faire une prestation vraiment pas désagréable. Et puis, clairement, comme tu l'as dit pendant l'émission, les statistiques des Rams chutent vraiment offensivement quand il sort, et c'est clairement pas une coïncidence à mon sens. Donc du coup, comme tu m'as volé ce flop, il faut que
tu seras mon flop pour finir.
Bah, mais c'est comme ça qu'on finit.
Mais pour le coup, pour laisser une minute à Raphaël pour réfléchir, c'est vrai que ça aurait été... Il fait 52 yards et un touchdown en un carton, en gros. Ça aurait été un storytelling tellement incroyable qu'il finisse MVP du Super Bowl. Après tout ce qui s'est passé,
c'est sûr.
Odell Beckham MVP de Super Bowl, ça aurait été...
Bon, non, mais c'est parce que Raphaël voulait montrer l'inutilité de cette chronique jusqu'au bout en disant, tu vois, ça fait doublon en fait.
Mais non, mais en vrai, sincèrement, je vais pas... Enfin, tout le monde a déjà donné plus ou moins des flops, tu vois, je vois pas trop... Enfin, j'ai pas vraiment de flops qui ressortent. Si, allez, peut-être il a Apple, du coup, pour continuer à lui taper dessus, mais il y a déjà tout le monde de la NFL qui est en train de l'assassiner sur Twitter.
C'est incroyable. Il y a tous les joueurs de toutes les équipes qui sont en train de taper sur Eli Apple sur Twitter. Ouais.
Du coup, le flop, pour finir sur une bonne note, ce serait les gens qui tapent sur Eli Apple, parce qu'il n'y a pas besoin.
Ouais, voilà.
Tu vois, il sait qu'il a fait un mauvais match, a priori, d'ailleurs.
Oui, c'est vrai.
Il n'y a pas besoin
de dire. Non, mais le truc, c'est qu'il a trash-talké toutes les semaines, toute la saison, ses anciennes équipes en disant « Vous êtes des nazes, je vous ai battu, etc. » et qu'il prend un retour de bâton.
Bon. Eh bien, on va terminer là-dessus. C'est top et c'est flop. Donc, pour l'histoire de TDA, l'émission, elle continue, hein, je vous rappelle. Si vous aimiez beaucoup le top flop, on est désolé, mais le reste de l'émission continue là-dessus, il n'y a pas de problème. C'est comme ça que se termine l'épisode 488. J'espère que je suis bien au bon compte parce que j'ai compté vite fait là, avant qu'on enregistre. Mais en tout cas, j'ai 488. L'émission vous était proposée par notre partenaire JD Sport. Pour vous occuper maintenant que la saison NFL est terminée, vous pouvez vous mettre au sport ou vous remettre au sport après l'hiver en profitant des vêtements, chaussures et accessoires de la campagne fitness de JD Sport. Et puis évidemment, continuer à consulter les news de l'intersaison sur TD Actu parce qu'il y a plein de choses qui arrivent. Greg, mock draft dès jeudi, je crois, en live sur Twitch.
Mock draft dès jeudi, a priori vers 18h30 sur Twitch.
Bon.
Donc voilà, ça sera communiqué sur les réseaux sociaux évidemment. De toute façon, mais ça va lancer la grosse période draft qui arrive.
Et l'occasion en effet de remercier Sébastien Polomeni pour son boulot incroyable sur les réseaux sociaux. Ne t'inquiète pas, ce sera relayé, ça va être transmis à Seb et ça part sur les réseaux. Merci à Lucas aussi qui était sur place, merci à toute l'équipe, Mathieu et Tristan notamment qui ont tenu le site avec Alex pendant le Super Bowl, nos graphistes Ben, Xavier, Romain Terrasse et François. Qui ont été évidemment au top et toute l'équipe TDA maintenant qui était là sur toute la saison. Mais on l'a dit, ça continue, les War Rooms, donc les papiers d'intersaison ont déjà commencé, donc il y a le point intersaison sur toutes les équipes NFL qui arrivent. Il y a encore une fois des podcasts, vous allez avoir le podcast de l'intervention de Lucas depuis Los Angeles, on fait une petite émission séparée avec Lucas là-dessus, donc voilà, il se passe plein de choses, l'actu ne s'arrête jamais en NFL. Je vais remercier nos tipeurs qui ont été très nombreux au mois de février. Roblinho, Emmanuel, Chogo, France Max, Ben, Mavs41, Biker B, Nabila, Julien Brossillon, Jérémy, Obi-Wan CC, Jalen Cup 14, PL, Destek, Lille Molikou, Guillaume Priol, Soif99, Nico, Paul, Josh Allen MVP, Arnaud Doucet. Voilà, je crois que j'ai fait le tour pour les derniers depuis la dernière émission. J'espère que je n'oublie personne. Mais en tout cas, un grand merci à vous. J'essaie de voir. Ouais, Thomas, j'avais fait. Oui, c'est ça, je m'arrête là. J'avais fait tout le monde depuis la dernière émission. Merci à tous de nous avoir écoutés. Encore une fois, je ne dis pas même plus pendant toute la saison parce que ça ne s'arrête plus. Il y a des podcasts qui vont continuer. Il y a la Team Draft qui est là. Moi, je pars un petit peu en vacances, mais il y a de la Team Draft. Il y a plein de choses. Et puis, on va revenir après avec de la Free Agency, de l'intersaison, des lives Twitch, tout ça. Ça ne s'arrête jamais maintenant. Merci beaucoup. Messieurs, à vous aussi.
Merci à tous.
Parce que j'ai dit tout le monde, mais je gardais ceux qui sont avec moi pour la fin. Raphaël, Victor, Grégory, Camille qui est à côté de nous, et puis Raoul Villeroy qui était présent aussi, qui n'a pas pu rester pour l'enregistrement, mais voilà, on a passé toute la soirée, tout le Super Bowl ensemble, le fauteuil, enfin voilà, il s'est passé plein de choses. Merci encore, messieurs, pour votre présence. Continue. Je rappelle les réseaux sociaux, Twitter @TDActu, Facebook @TDActu, Instagram @TouchdownActu en entier, @Raphaël_TDA, @VictorRoulier, @YellowRadiosa, @CamisaRaven, @AlainMattei, ça c'est pour les persos. Toute l'actu de la NFL, c'est sur tdactu.com. On vous dit à très vite sur TDA, en podcast, sur Twitch ou sur le site. Très bonne semaine à tous. Ciao, ciao.
Analyse, fromage et jeu de mots, tout sur le foutu est en TDAQ. Le mardi, le jeudi, tailgate au risotto, les meilleures recettes en TDAQ. Fumble pour JJ Watt, Bismuth pour Marshall Lynch, Trocage Global Beckham, Tom Brady quarterback, calé sur le fauteuil, option Madame Irma, à la fin on compte les points et on finit.